La reine est morte, vive le roi.
God save the king.
Une page de l'histoire se tourne avec le décès de la reine Elisabeth II. Un règne tellement long qu'on en a peut-être oublié un élément essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire promettre allégeance au roi? Bien sûr, je comprends ce que ça veut dire allégeance. Allégeance, c'est la soumission, la fidélité. Être fidèle dans ma soumission au roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits pour les Britanniques? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es politicien, si tu travailles dans l'armée ou que tu sois, tu dois allégeance au prince Charles devenu Charles III. Est-ce que ça veut dire que s'il te dit de faire n'importe quoi, tu dois lui obéir? Moi, en tant que Suisse, en tant que libre, j'ai des autorités, mais c'est pas des rois. En tant que Suisse, ça me pose quand même un problème, ça m'ébranle. Quand j'entends au journal qui parle de cette allégeance à Charles III, je me dis « Waouh !» Ben, je ferai quoi, moi? C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Non seulement en tant que Suisse, mais en tant que fille et sujette du roi des rois. À qui est-ce que je dois allégeance? Qui est mon autorité? La parole de qui est-ce que j'écoute? Ça m'a touchée pendant la louange au niveau du choix des chants et des paroles qui allaient dans la direction de ce que je vais apporter ce matin et qui parlent de cette suprématie de Dieu. La suprématie de sa parole et le fait que nous sommes en chemin, il y a une route, il y a un mouvement, mais pas n'importe comment. À qui est-ce qu'on donne allégeance? Alors moi, je vais faire un grand retour en arrière. D'ailleurs, il y en a qui ont commencé avant moi, donc je suis le mouvement. Il y a quelqu'un qui nous a parlé il y a quelques semaines de Néhémie. Je crois qu'il est parmi nous. Il y en a deux qui ont parlé de Néhémie. Ça, c'est au temps de l'exil et même du début du retour de l'exil. Il y a quelqu'un qui nous a parlé d'Asaph. Asaph, c'est dans les chroniques, c'est du temps des rois, donc juste avant l'exil et pendant l'exil. Et puis, il y a quelqu'un qui nous a parlé de Caleb. Caleb, c'est la conquête de Canaan dans la période de Josué et des juges. Eh ben moi, je reviens encore plus en arrière. Abraham. Alors, je saute par-dessus l'histoire de l'Exode et Moïse, ce sera pour une autre fois. Donc, comme ça, on repartira dans l'autre mouvement, dans l'autre sens. Abraham. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Genèse 11. Juste pour resituer l'histoire, on a vu la création, on a vu l'histoire de la chute, ensuite de quoi le mal a proliféré. Il y a eu l'épisode de Noé et de l'arche et du déluge, mais même qu'il y a juste 8 personnes qui ont été sauvées et l'humanité a repris, le mal a continué de proliférer et ensuite il y a eu la tour de Babel où les gens ont voulu s'élever pour être Dieu, pour élever une tour pour être Dieu et Dieu a brouillé leur langage et les a dispersés. Et après tout ça, on a la généalogie d'Abraham. Abraham qui, dans ses gènes, ne le sait pas encore, mais porte une postérité divine. Sa descendance, en fait, va amener au Messie. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Ce plan de rédemption, il est en préparation, mais lui ne peut pas le comprendre. Alors, on a toute sa généalogie et on arrive à son père, Térak. Genèse 11, 31. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Voilà, juste pour nous remettre un petit peu dans la généalogie, alors elle est extrêmement simplifiée. Mais vous avez Térak qui a eu 3 fils. ils sont un petit peu plus ingrats que leurs épouses. D'abord Abraham a marié à Sarah, ils ont un problème, la stérilité. On sait qu'après viendra Ismaël et Isaac, et ensuite après Isaac viendra Jacob. Un deuxième fils, Nachor, marié avec Milka, ils ont Bethuel. Et vous le voyez presque pas, parce que j'ai utilisé une couleur presque invisible, c'est pour pas vous disperser, mais Bethuel va avoir Laban et Rebecca. Et Rebecca va avoir avec Jacob, Rachel et Léa. Voilà, ça vous remet un petit peu dans l'histoire. Et Haran, troisième fils de Terak, est mort et il a laissé un fils orphelin, on pourrait dire adopté par Abraham et Sarai. Voilà la généalogie, juste pour se faire une idée. Terak, il prend sa famille, il n'est pas question de Bethuel à ce moment-là, mais pourtant, bien des années plus tard, on sait que sa famille, Laban, Rachel, habite à Charan. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas pris tous ses fils, ou est-ce que Bethuel est allé plus tard? Là, on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas. Toujours est-il que Terak, avec sa famille, il habite à Ur. Ici, en Mésopotamie, tout au sud de la Mésopotamie. Et puis, il a un projet, aller à Canaan. À Canaan, c'est la Palestine, c'est Israël, c'est ici. Et Charan, c'est au nord de la Mésopotamie. Alors, pourquoi est-ce que Terak veut partir pour aller en Canaan? C'est une grande question. Parce que Ur, c'est une grande ville, c'est un centre politique. C'est une ville où il y a des belles maisons. Les maisons, elles sont faites sur deux étages, des maisons en dur. C'est pas n'importe quoi, cette ville. Du coup, peut-être qu'Abraham, au départ, il n'était pas nomade, on ne sait pas. Mais il y avait pas vraiment de raison de sortir de Ur. Sauf si cette raison, elle venait d'en haut. Dans toutes les villes de Mésopotamie, on adorait des milliers de dieux. Mais chaque ville avait son dieu principal. Et à Ur, le dieu principal, c'était Sin. Sin, le dieu lune. Alors, à Ur, on adorait le dieu lune. Et voilà que Terak part avec sa famille pour aller en Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent à Charan. Pourquoi ? Son objectif à Terak, c'est d'aller à Canaan. Alors pourquoi est-ce qu'il s'arrête? On peut se poser vraiment la question. Il s'installe avec sa famille. Charan, qu'est-ce que ça veut dire? Charan, ça veut dire carrefour. C'est une ville qui est au carrefour des routes principales des caravanes. C'est encore une de ces villes commerciales où ça foisonne de monde. C'est une ville où il y a de la vie et même où la famille de Terak et Abraham s'enrichit, ils ont des biens qui prospèrent. Mais il y a un truc, c'est que dans cette ville, ils ont aussi un dieu principal. Et ce dieu principal, c'est le dieu Sin, c'est le dieu Lune. C'est le même dieu, c'est la même idole qu'on trouve à Ur. C'est comme si Terak a quitté quelque chose, mais en fait, il n'a pas réussi à vraiment le quitter entièrement. Il est sorti de Ur, mais il s'installe dans un carrefour. Il a le projet d'aller à Canaan, il s'installe dans un carrefour. Pourquoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous installer dans un carrefour? Je ne sais pas, quand on voyage parfois dans une ville qu'on ne connaît pas, ça arrive qu'on se retrouve dans un rond-point. Et puis on commence à tourner pour prendre la bonne sortie, puis on n'est pas vraiment sûr. Alors on fait un tour de plus, puis on n'est pas tout à fait sûr. Puis des fois on en fait un deuxième, mais pour finir, on sort. Eh bien là, on a l'impression que Terak qui s'est installé au milieu du rond-point. Il est dans un carrefour et il n'en sort pas. Au point qu'au bout d'un moment, il meurt. Et sa vie s'arrête là. Et il n'a jamais vu Canaan. Alors ça nous pose quand même un petit peu la question de nos propres vies. C'est une chose de recevoir l'appel du Seigneur, de se convertir, de croire au Seigneur Jésus, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça fait un changement dans nos vies? Et même quand on est chrétien depuis longtemps, puis qu'on comprend des choses, on se met en marche, on reçoit une promesse, on reçoit un appel sur notre vie. Mais comment est-ce qu'on fait pour se mettre en marche et pour vraiment entrer dans cet appel? Parfois, on reste dans un carrefour. Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas quitter. Et la problématique à cette époque, c'était l'idole. C'était l'idolâtrie. L'idolâtrie, il y en avait partout. Et c'était tellement intrinsèque à la culture de l'époque que c'était presque impossible de s'en séparer. Il fallait vraiment l'intervention du Dieu puissant pour comprendre que c'était pas juste. Et dans nos vies, ça arrive souvent qu'on ne se rend pas compte, mais quelle est l'idole dans ma vie? Ou les idoles? Ça vaut la peine de se poser la question quand on stagne, quand les choses n'avancent pas. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis partie? Est-ce que je suis sortie de Our? Est-ce que je suis arrivée à Charan? Est-ce que je suis en train de tourner en rond? Est-ce que je me suis installée? Ou est-ce que je suis en train de sortir pour aller en Canaan? L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il est à Charan, tout là en haut. À 75 ans, il part pour aller à Canaan. Et il arrivera à Sichem, qui est noté ici, Sichem qui est au centre de Canaan. De Our jusqu'à Charan, il y a environ 900 kilos. Ça fait minimum un mois de trajet. Sachant qu'il n'y a pas une ville tous les 30 kilomètres pour s'arrêter, pour dormir. Il faut des tentes, il faut préparer le voyage, il faut avoir de l'eau, il faut avoir des vivres. C'est pas rien un voyage comme ça. Ils ont déjà fait environ 900 kilomètres, il leur en reste 800 pour arriver à Canaan. C'est un gros voyage. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » Étienne, bien des années plus tard, dans son discours, il va traduire un peu autrement, il a compris autrement. Il va dire, l'Éternel avait dit à Abraham. Peut-être qu'il y a un élément de réponse. Peut-être que cet appel, il n'a jamais été sur Térakh. Peut-être que ce n'était pas l'initiative de Térakh de sortir de Our. Peut-être que Abraham a reçu cet appel et il n'a pas réussi à tout quitter ce que le Seigneur lui demandait. Alors il a quand même pris toute sa famille avec. C'est une possibilité. Peut-être que c'est Térakh qui s'est opposé à ce que son fils parte. On ne connaît pas les circonstances. Toujours est-il qu'à un moment donné, Térakh est mort. Et ils sont dans leur carrefour, ils sont dans leur rond-point, mais Térakh est mort. Et Abraham, là, cette fois, il prend ses responsabilités. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il y a un triple abandon que le Seigneur lui demande. Et qu'est-ce que Abraham fait? Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Autrement dit, Abraham se conforme à la parole de Dieu. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Comme la parole qu'il a reçue, qu'il a entendue. Il obéit. Il est en pleine obéissance. Et c'est quoi cette parole? Va-t'en. Quitte. Sors. Sors de ton pays. Sors de ton pays, ça c'est géographique. Sors du lieu où tu es, du lieu où tu as tous tes repères. Mais pour un pays meilleur que je te donnerai. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous dit de le suivre, c'est jamais pour quelque chose de moins bien. C'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Mais pour ça, il faut qu'on quitte. Il faut qu'on quitte certaines sécurités. Et le voyage est assez loin pour qu'on n'ait pas la tentation d'y revenir. quitte ta patrie. Ta patrie, c'est les circonstances de ta naissance et c'est ta culture. Autrement dit, c'est l'idolâtrie. Quitte tout ça, tout ce qui t'attache aux idoles, tout ce qui t'attache à autre chose qu'à Dieu, tout ce qui t'empêche de faire de la parole de Dieu ton autorité, quitte-le. À qui est-ce que tu donnes autorité? À quelle parole est-ce que tu donnes autorité? On est beaucoup à avoir entendu des choses quand on était gamin. T'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop ci, t'es trop ça, tu fais pas ça assez bien, tu y arriveras jamais. C'est des paroles qui ont impacté nos vies. Et après, il faut toute une vie pour essayer de se défaire de ces paroles, pour ne plus croire à ces mensonges. C'est des paroles qui ont eu autorité sur notre vie. Mais cette parole-là, elle est meilleure. Cette parole-là, elle est libératrice. Cette parole-là, elle est vivante. Cette parole-là, c'est la vérité. Alors, que dit la parole de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qui vas-tu écouter? Quand on te dit, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as tel problème. Est-ce que c'est vrai ou que dit la parole? Abraham écoute la parole et il quitte, il sort de sa patrie, il sort de ce monde idolâtre. Il change de Dieu, il change de référence, il change d'autorité. Quitte la maison de ton père. Dieu n'est pas en train de dire à Abraham, fais la tête à ta famille, claque la porte et c'est fini. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire, Abraham, je vais faire de toi une nouvelle famille, un nouveau peuple. Il y a une semence en toi, une semence qui va proliférer, un nouveau peuple qui va apporter au Messie. Mais ça, Abraham, à ce moment-là, ne peut pas le comprendre. Il ne le sait pas. Mais il y a un projet que Dieu a mis en Abraham. Mais pour que ce projet il arrive à réalisation, il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte tout ce qui pourrait empêcher ce projet de se réaliser. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin de sortir du rond-point, mais nous avons besoin de quitter beaucoup de choses. Tout ce qui nous empêche de laisser Dieu nous remplir et accomplir ses promesses, la destinée de nos vies. Alors Abraham part. Il prend Lot. Abraham prit aussi Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Vous entendez la différence avec Térakh? Térakh partit pour aller jusqu'à Canaan, et il arriva à Charan, et il s'installa. Abraham partit pour aller à Canaan, et il arriva à Canaan. Abraham arrive à bon port. Il arrive dans le lieu de la promesse. Il arrive là où Dieu lui a dit d'aller. Il est en plein milieu de la volonté de Dieu. Il arrive à Sichem. Sichem, c'est au centre du pays. Il arrive en plein au milieu. Il est dans la volonté de Dieu. Il a fait juste. Et en plus de ça, il est parti sans contestation. Il n'a pas posé de questions. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas eu peur. Rien, pas un mot. Il s'exécute, il est dans l'obéissance, il est dans la foi, il est dans la confiance, il est dans la soumission. On pourrait se dire, ben maintenant tout va bien. Et non. Abraham arrive à Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Abraham est vraiment dans le juste. Il a compris un principe. Il arrive dans ces lieux, il parcourt tout le pays. C'est comme s'il veut connaître cet héritage qu'il a reçu. Il a reçu un territoire et il veut connaître son territoire. Alors il le parcourt, il l'inspecte, il veut connaître son nouvel environnement. C'est la même chose si vous avez reçu un appel, si vous savez que vous avez des dons pour quelque chose. Eh bien, apprenez à connaître ses dons. Apprenez à savoir ce que le Seigneur veut faire avec ça. Comment est-ce qu'il veut faire? Regardez, mais c'est quoi mon territoire? Mon territoire en Dieu, mon héritage en Dieu, qu'est-ce que c'est? Abraham parcourt son territoire. Jusqu'au lieu nommé Sichem, Sichem ça veut dire épaule, donc rien de trop significatif. jusqu'aux chaînes de Morée. Morée, ça veut dire l'enseignant ou le devin. Et là où il y a un chêne, souvent il y a un lieu de culte. Autrement dit, premier obstacle, Abraham arrive bien dans le pays qui lui est promis. Il est au cœur de la volonté de Dieu, il a compris les principes, mais là où il arrive, c'est un lieu de culte idolâtre. Cette fois, on ne sait pas quel dieu, mais sûrement tout plein. C'est comme une séduction, c'est comme une tentation de retourner à sa culture, de retourner aux choses qu'il connaît, de retourner à ses repères. Eh bien non, qu'est-ce qu'il fait ? Il bâtit un autel à l'Éternel. Il est en train de marquer son territoire. Ici, il y a un culte des idoles, eh bien moi, je bâtis un autel à l'Éternel et je lui rends gloire. Et dans ce lieu, je reconquéris le terrain, c'est celui de mon Dieu. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le pays est occupé. Les Cananéens sont idolâtres et ils pratiquent des sacrifices. Je ne sais pas quelle sorte de sacrifice, mais si c'est la même chose qu'à Our, on a retrouvé des preuves scientifiques des sacrifices d'animaux et des sacrifices humains. Les lieux d'idolâtrie, c'est des lieux de débauche, c'est des lieux d'abomination. Et Abraham, il sait que les Cananéens qui sont là, où lui vient d'arriver, pourtant il est en plein dans la volonté de Dieu, le terrain est occupé. Mais il bâtit un autel. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité » et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham ne se laisse pas intimider, il ne se laisse pas influencer. Pour l'instant, il est étranger sur cette terre. Et de l'opposition, il y en a, des obstacles, il y en a, des séductions, il y en a, des tentations, il y en a. Mais c'est pas à ça qu'il regarde, c'est pas ça son autorité. Lui, il regarde à l'Éternel qui lui a donné une parole. Et pour nous, ça nous parle de notre vie de tous les jours. La vie chrétienne, mes amis, c'est pas un long fleuve tranquille. Et beaucoup le savent. Je pense que la plupart, vous le savez. Mais peut-être des fois, vous vous dites, mais c'est pas normal. Eh bien, oui et non. Oui et non. C'est pas normal parce que tout ce qui se passe dans ce monde déchu n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est Dieu. Ce qui est normal, c'est la vie. Ce qui est normal, c'est la vérité. Ce qui est normal, c'est la justice. Mais on n'y est pas encore. Elle est en train de venir. Elle vient aussi à travers nous parce qu'on est porteur de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais parfois on se dit, vu que je suis chrétien, je devrais plus avoir de problème. C'est pas juste, parce qu'on est dans un monde déchu. Par contre, ce qui est normal, c'est de prendre autorité, c'est de comprendre qui est notre ennemi, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parcourir le pays, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui m'éloigne de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui m'assaille? Qu'est-ce qui freine ma route? Et là où j'identifie qu'il y a quelque chose, je dresse un autel à l'Éternel. Je commence à prendre la parole de Dieu et je regarde ce que cette parole veut dire pour ce qui me concerne. Si on a dit des choses méchantes sur moi, je vais prendre sa parole et je vais regarder les paroles de bénédiction et je vais les appliquer à ma vie. Je vais les proclamer pour ma vie. Je vais les répéter et les répéter encore pour ma vie. Jusqu'à ce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu jusqu'à ce que ça fasse son effet en moi. C'est une manière de rendre gloire à Dieu, c'est une manière d'adorer Dieu. Je reconnais que ta parole, elle m'impacte, elle me change, elle me transforme, alors je persévère. Il y a un élément important aussi. L'Éternel, au départ, il dit à Abraham, quitte, je te bénirai. Une quadruple bénédiction, je te donnerai un pays, je te donnerai une possession. Mais même au début, il lui dit surtout, mais va là où je te dirai d'aller. Et maintenant qu'il est arrivé à bon port, Dieu lui donne quelque chose en plus, il lui dit, mais c'est ta postérité qui va avoir ce pays. Autrement dit, c'est pas toi, c'est ta descendance. Autrement dit, tout ce que tu es en train de faire, c'est pas pour ta propre vie. C'est pas pour ton ego. C'est pas pour ton estomac. C'est pas pour répondre à tous tes besoins. C'est pour que tu deviennes une source de bénédiction, pour que tu te répandes. Et c'est la même chose pour nous. Mais quand on s'abandonne et qu'on entre pleinement dans la volonté de Dieu et qu'on va jusque dans notre Canaan, il y a aussi les bénédictions qui vont avec. C'est une bénédiction de pouvoir bénir, ça c'est une chose. Mais si on regarde la bénédiction d'Abraham, je peux pas la développer complètement ce matin parce que ce serait une toute autre prédication, mais il y a quatre choses essentielles. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai, ça veut dire prospérité. Ça veut dire ce qui vient après. Je maudirai ceux qui te maudissent, je bénirai ceux qui te maudissent. Je te bénirai, ça veut dire je serai toujours avec toi. Tu seras une source de bénédiction. Et juste avant, je rendrai ton nom grand. Il est tellement grand qu'on parle d'Abraham encore tous les jours sur toute la surface de la terre. Et tu seras une source de bénédiction. L'explication, elle est un peu plus bas. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est une source de bénédiction parce qu'il est devenu le père de tous les croyants. Il est le père du peuple d'Israël et il est notre père dans la foi. Le père de tous les croyants. Et c'est par sa postérité qu'il nous a amenés à Christ. La bénédiction d'Abraham, elle est incroyable. Mais il a fallu qu'il obéisse. Il a fallu conquérir son territoire. Et ce n'est pas terminé. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, en s'avançant vers le midi, vers le sud, vers le désert du Néguef. Abraham ne reste pas statique à Canaan. Il a perçu une ville, à Sichem, pardon. Il a perçu une ville, il a reçu un territoire. Il parcourt ce territoire, du nord au sud. Il continue, et là, il va entre Bethel et Haï, et il plante ses tentes. Et ça, c'est intéressant. Il ne va pas s'établir dans une ville pour avoir une maison en dur, pour avoir la sécurité, mais il plante ses tentes pour pouvoir se déplacer. Et quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il est de passage, comme nous, nous sommes de passage. Il a quitté des maisons en dur à Our, en Chaldée, et là, il plante ses tentes de lieu en lieu. Il parcourt son territoire. Il étend son influence. Parce qu'un jour, ses descendants vont proliférer. Et ce qui est intéressant, c'est Bethel et c'est Haï. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et il ne va pas s'installer dans la maison de Dieu. À son époque, ça ne s'appelle pas encore comme ça, parce que c'est le lieu où Jacob a eu cette vision, vous vous souvenez, où on a parlé de l'autel, Ritz nous a parlé de l'autel, les anges qui montaient et qui descendaient, Jacob a fait une expérience avec Dieu, il a dressé un autel et il a appelé ce lieu Bethel. Avant, ça s'appelait Luz. Mais ici, par anticipation, on parle déjà de Bethel, ça nous parle, ça veut dire quelque chose. Abraham ne met pas ses tentes à Bethel, mais entre Bethel et Haï. Et il y a marqué, il se transporta vers les montagnes à l'orient de Bethel. À l'orient, ça veut dire à l'est. À l'est d'Éden, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Je fais une toute petite parenthèse. Quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, c'est à l'est d'Éden que les chérubins ont été mis avec l'épée flamboyante pour qu'ils ne puissent pas revenir. Eh bien, c'est comme si Abraham, il est à l'est de Bethel. Cette maison de Dieu, ce jardin d'Éden, cet endroit, ce paradis, parce que Canaan, c'est le paradis. C'est le paradis qui nous attend. C'est prophétique, toute cette histoire. Eh bien, Abraham n'est encore pas dans le paradis de Dieu. Il n'est encore pas dans l'accomplissement total de la promesse. Il ne peut pas encore. Jésus n'est encore pas venu et Jésus n'est encore pas revenu. Alors, il est à l'est de Bethel. Mais il est entre Bethel et Haï. Haï, c'est une ville qui a été conquise à la période des juges, mais il a fallu s'y reprendre à deux fois. Il y a d'abord une défaite et ensuite une victoire. Le mot haï, ça veut dire ruine. Abraham y plante ses tentes entre la maison de Dieu et la ruine. Et nous, aujourd'hui, nous avons nos tentes plantées entre le paradis de Dieu, où on en a des bribes ici, mais c'est aussi celui qui nous attend, et haï le monde dans lequel on vit et qui va à sa ruine. On voit tout ce qui dégénère. On voit qu'on est au milieu d'une confrontation de puissance. Mais que fait Abraham quand il plante ses tentes à cet endroit-là? Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel, ça veut dire il fit appel à l'Éternel, ça veut dire il le reconnaît comme son autorité. Ça veut dire l'Éternel est la seule autorité suprême, là où je me trouve. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi, vers le sud. L'histoire va continuer. L'histoire va continuer, Abraham n'est pas un homme parfait, parce qu'Abraham, il est fait de la même pâte que nous. Alors on lui doit beaucoup, Abraham. On doit beaucoup à son obéissance. On doit beaucoup à sa confiance. On doit beaucoup à sa foi. On doit beaucoup à son adoration. Chaque fois qu'il a dressé un autel, c'était un signe d'adoration. C'était un acte d'adoration. Et toutes ces choses-là, elles nous enseignent. Nous sommes appelés à faire de même. Mais ça n'empêche pas qu'Abraham, il a aussi eu ses faiblesses. Mais c'est des gens qui ont leur force et leur faiblesse que Dieu utilise. Autrement dit, Dieu nous utilise chacun comme nous sommes. Mais à nous d'aller dresser nos autels. À nous d'aller dresser nos autels dans tous les domaines de notre vie. Vous avez un problème de santé? Eh bien, dressez un autel. Placez votre confiance en Dieu, utilisez la parole par rapport à ce problème de santé. Vous avez un problème d'intimidation, il y a des choses, des circonstances dans la vie qui vous intimident. Il y a des relations difficiles, des gens qui vous font peur, un prof qui vous fait peur, un patron qui n'est pas sympa, quelqu'un qui n'est pas correct. Que dit la parole de votre situation? Comment est-ce que vous devez faire dans cette situation? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Demandez la sagesse du Saint-Esprit. Cette parole, elle va vous aider. Cette parole, elle va vous conduire. Mais il faut avoir le bon réflexe. Ayez le bon réflexe de vous y référer. Dressez un autel dans toutes les situations de vos vies. Et essayez de bien comprendre. Seigneur, quel est ton appel? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Où veux-tu que j'aille? Alors, je ne sais pas ce matin où tu es. Est-ce que tu es encore à Our? Je ne suis pas très sûre. Je ne suis pas sûre que vous seriez ici si vous étiez encore à Our. Mais est-ce que tu es dans un carrefour? Est-ce que tu es en train de tourner depuis longtemps? Il y a des personnes qui tournent depuis des années dans des problèmes. Est-ce que tu t'es assis dans ton rond-point? Ou est-ce que tu es en train de sortir? Et si tu es sorti, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es toujours à Sichem ou est-ce que tu es en train de parcourir ton pays? Est-ce que tu as oublié de planter tes autels, de bâtir tes autels ou est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que chaque jour tu as un autel auquel tu viens? Est-ce que chaque jour tu as un temps de communion avec le Seigneur? Est-ce que chaque jour tu te souviens que cette parole, elle est au-dessus de toutes les paroles que tu as entendues? Moi, je vous encourage à sortir de votre rond-point. Et de comprendre où le Seigneur veut vous mener. N'ayez pas peur de perdre vos sécurités. N'ayez pas peur de perdre certaines habitudes. Mais prenez cette habitude-là. Soumettez-vous à l'autorité du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne, ta parole qui est puissante, ta parole qui est vie, ta parole qui est vérité. Seigneur, c'est le moyen que tu as choisi pour nous parler. C'est le moyen que tu as choisi pour nous instruire. C'est le moyen que tu as choisi pour nous protéger. C'est le moyen que tu as choisi pour nous laver. Et c'est le moyen que tu as choisi pour te révéler à nous. Je te demande de nous apprendre à utiliser cette parole. Apprends-nous à utiliser cette parole pour les circonstances de nos vies. Apprends-nous à appliquer cette parole dans tout ce qui nous concerne. Et apprends-nous à prendre possession du territoire que tu nous as donné. Je te demande ton aide, Saint-Esprit, pour chacun d'entre nous. Tu connais nos circonstances. Viens à notre secours. Si quelqu'un a l'impression d'être dans un rond-point ou dans un carrefour qui tourne en rond ou qui s'y est assis, qui n'arrive pas à sortir, ben je vous invite à vous lever comme un signe que vous prenez la décision de sortir de ce carrefour. Je vous invite à dire devant le Seigneur ce que vous voulez quitter. Quelles sont les habitudes, la culture, ou quelle est l'idole que vous avez débusquée et que vous quittez? Quelles sont les paroles que vous ne voulez plus croire? C'est le moment de le dire au Seigneur. C'est le moment de prendre une décision. Prenez une décision. Ce que vous voulez quitter, quittez-le. Si des personnes sont déjà sorties de ce rond-point, si des personnes sont déjà en route pour Sichem, mais qu'ils ont oublié de conquérir le territoire, qu'ils ont oublié de se répandre, de parcourir le pays, et qui veulent maintenant apprendre à connaître ce que Dieu vous a donné en héritage, eh bien vous pouvez vous lever, en signe que vous voulez faire un pas de plus, que vous voulez connaître les choses que Dieu a pour vous, et comment y entrer, et comment être puissant en esprit, et comment appliquer la parole à vos vies. S'il y a des paroles qui ont besoin d'apprendre à dresser des autels dans les circonstances de leur vie, s'il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre à appliquer cette parole pour vos circonstances, s'il y a des personnes qui ont besoin de dresser un autel au plein milieu d'un conflit spirituel, vous pouvez vous lever comme un signe que vous décidez, que vous prenez l'engagement de bâtir un autel à l'Éternel là où il y a de l'adversité. Seigneur, je te demande maintenant par la puissance de ton esprit de rejoindre tous les cœurs de ces personnes qui sont debout devant toi. Je te demande de leur donner cette force, le vouloir et le faire, de dresser un autel, de reconnaître ton autorité, d'apprendre à appliquer ta parole. Merci parce que tu les bénis et tu bénis ceux qui les bénissent. Merci Seigneur parce que c'est toi qui justifies, c'est toi qui rétribues le méchant, c'est toi qui leur fais justice dans l'adversité. Je te demande de leur montrer le chemin, montre-leur comment être debout spirituellement dans l'adversité. Pour ceux qui ont des problèmes avec leur patron, avec un frère ou une sœur, avec un voisin, avec quelqu'un qui leur pose problème, je te demande de leur donner la stratégie avec ta parole. Que ce soit ta parole qui les dirige, que ce soit ta parole qui leur donne les stratégies, la force, l'autorité, la puissance, l'amour, la sagesse, la grâce, qu'ils sachent comment qu'on se tient dans le royaume du Seigneur, qu'ils soient conscients qu'ils sont fils et filles du roi des rois, et que tous ceux qui s'attaquent à eux ont affaire à toi. Oui, que ta puissance vienne sur eux. Merci Seigneur de donner ta force, de donner ta volonté. Renouvelle un esprit bien disposé pour chacun de mes frères et sœurs, pour qu'ils aient la force de bâtir leur autel, de te rendre toute l'adoration qui t'est due. Qu'ils comprennent chaque fois qu'ils donnent de l'importance à des mensonges, ils sont en train d'adorer des fausses paroles. Montre-leur, ouvre leurs oreilles, ouvre leurs yeux, ouvre leur entendement, renouvelle leur intelligence, qu'ils puissent comprendre ce que c'est que d'adorer le Dieu vivant. Tu es le seul Dieu et le roi des rois. Fais cette œuvre, Seigneur, fais cette œuvre dans le cœur de chacun d'entre nous, qu'on sache être positionné spirituellement et entrer dans notre Canaan, parce que tu as payé le prix, parce que tu es notre roi des rois, et c'est à toi, Jésus-Christ, que nous promettons, que nous tenons et que nous faisons allégeance. Gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, Père éternel, Dieu des armées. Gloire à toi, Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à toi, Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, puissance de Dieu, conseil de Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Amen.